OK, on est de retour dans l'avant-match. On va faire une entrevue qu'on n'a pas fait souvent dans les 10 ans de l'avant-match au cours des prochaines minutes. On va faire une entrevue en direct. Vous savez, mes collègues m'agacent souvent avec les entrevues préenregistrées. Il y a des raisons au pre-tape, hein? Il y a des raisons d'horaire des gens impliqués dans le monde du hockey à qui on veut parler sur l'heure du souper. Quand Will les appelle à midi moins quart ou bien à 11h20 le matin, la personne dit « Ouais, là, trois enfants, les devoirs, il va y avoir une pratique, il va y avoir une game, pas évident. À quelle heure? Penses-tu qu'on peut se parler à 4h30 au lieu de se parler à 6h30? » Donc, et ça fait en sorte que, à l'occasion, on doit préenregistrer des entrevues. Mais mon prochain invité se trouve à Bratislava, en Slovaquie, pour le championnat mondial de hockey. Il est 18h28, heure du Québec, rajouté 6h. Il est donc minuit 28 pour lui. C'est assez impressionnant, merci. Et on va rejoindre à l'instant un gars de Québec qui est entraîneur adjoint de l'équipe de la France au championnat mondial de hockey. Son équipe s'est d'ailleurs inclinée 4-1 cet après-midi contre l'Allemagne. C'est René Matt qui est au téléphone. Salut René!
Salut Dan.
Comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
D'abord, merci à minuit 30 à ton heure de prendre du temps pour me jaser. J'apprécie sincèrement.
Ouais, pas de problème. Écoute, on rentre du match, donc après un match comme ça, il y a encore un peu d'adrénaline, donc on s'endort pas tout de suite, fait que c'est pas un problème.
Ouais, mais quand même. Mais t'as raison, après un match d'hockey, qu'on l'ait arbitré, coaché ou joué, c'est très rare qu'on tombe endormi une demi-heure après, hein?
Ouais, écoute, si on est bien concerné, si on est dans le match, on a la volonté de bien faire, habituellement, ça prend un peu plus de temps. Donc là, tu vois, je suis en train de faire la vidéo, je suis en train de regarder les choses qu'on a bien fait, les choses qu'on a mal fait, puis on va faire un genre de debriefing demain matin avec les joueurs. Donc,
okay.
Ça fait partie de notre quotidien, de notre job après le match de faire ça.
Avant qu'on parle de l'équipe de la France, parle-moi de ton cheminement à toi. On s'est déjà parlé dans mon émission, c'est pas la première fois qu'on se parle, ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais comment t'es devenu entraîneur adjoint de l'équipe nationale de la France?
Ouf, écoute, bon, ben, ça fait déjà quand même 13 ans que je suis en Europe. Donc, oui. les 13 dernières années, j'ai coaché au niveau professionnel en Europe, en Liga, donc la meilleure ligue en Suisse, pendant 10 ans à Fribourg. Puis après, bon, j'ai eu un petit temps d'un année et demie parce que j'avais pas de boulot, j'avais pas de job. Donc, j'ai fait un peu plus, j'ai fait de la télévision pendant une année et demie à Télé Nationale en Suisse. Et puis, depuis 2 ans, je vais débuter ma troisième année en Bri-Piatta, donc club en Liga aussi en Suisse. Et puis pendant cette année et demie, 2 ans là, que j'ai eu un peu de sans job, sans coacher, ben écoute, avec la télévision, ben tu crées des contacts. J'ai aussi donné des conférences dans des séminaires en France, donc je pense que les premiers contacts que j'ai eu avec eux. Et puis après, écoute, bon, comme tout le monde le sait, c'est un réseau de contacts, c'est vraiment là ton qui tu connais, les personnes que tu fréquentes. Et puis, quand ils ont nommé Philippe Bozon au mois de juin l'année passée, à la fin mai, début juin, après le championnat du monde en 2018, ils ont nommé Bozon comme entraîneur-chef. Et puis, Philippe, ben, lui, avait l'intérêt à engager un entraîneur adjoint qui était hors France, un entraîneur adjoint étranger. Donc, puis écoute, bon, c'est un des bons amis à mon frère. Donc, il a coaché avec lui dans le mouvement junior à Genève il y a quelques années. Et puis, c'est des bons potes. Et puis, par les relations que Louis avait avec Philippe, ben, c'est arrivé à moi, là, parce que on m'a rencontré au cours de l'été passé. Et puis, on était capable d'arriver à un accord parce que ça me prenait quand même une libération de mon club en Bri-Piatta qui pouvait me libérer. Faut qu'il me libère 5 à 8 semaines dans l'année, donc c'est quand même beaucoup. Parce qu'il est en Suisse, ben, au niveau de la Fédération internationale, il y a quand même des pauses olympiques, des pauses d'équipe nationale en décembre, novembre, décembre et février. Donc, faut que le club soit d'accord de te libérer. Et puis après, ben, il y a le championnat mondial avec le camp d'entraînement qui précède le championnat mondial.
OK, fort intéressant. Et là, tu te retrouves derrière le banc de l'équipe de la France comme entraîneur adjoint avec Philippe Bozon. Vous avez perdu contre l'Allemagne 4-1 aujourd'hui. Vous allez affronter l'équipe du Canada jeudi. Le championnat mondial, on l'a eu ici en 2008 pour le 400e de notre ville à Québec. C'est un gros événement. Est-ce que tu dirais qu'en Europe, comme ils sont habitués un peu plus que nous de l'avoir, c'est plus populaire là-bas que ça pourrait l'être, mais malgré qu'ici, ça a été un vrai succès, là. Est-ce que les gens, c'est devenu une routine, le championnat mondial? Est-ce qu'il y a beaucoup de partisans?
Oui, mais écoute, c'est un peu peux pas comparer ça à la Coupe Stanley, parce que la Coupe Stanley, c'est complètement différent. C'est des playoffs, c'est plus long, c'est plus attractif pour les Nord-Américains, mais ici, c'est la Coupe, c'est le championnat des meilleurs, ouais. des meilleurs pays, des meilleurs joueurs. Donc, c'est pour les Européens, c'est vraiment le summum, là. On sait que des fois, bon, le Canada, les États-Unis ou les grosses nations qui ont des joueurs qui sont établis en NHL, c'est plus difficile de se rapporter à leur pays parce qu'il y a les playoffs, mais pour les pays européens, c'est vraiment le championnat. C'est la fête du hockey. Il y a énormément de fans de partout dans le monde qui remplissent les gradins. Et puis c'est le gros tournoi, c'est la fin de saison. Donc c'est là qu'on voit les grosses nations qui amènent leurs gros armes. Donc, gros shooter, gros joueur qui fait la différence.
OK. Vous avez perdu aujourd'hui 4-1 contre l'Allemagne. Le premier match, vous l'aviez perdu de mémoire en tir de barrage. Oui. Qu'est-ce qu'on vous demande? Les dirigeants de l'équipe de la France, qu'est-ce qu'ils vous demandent exactement? Là? Évidemment, ils ne vous disent pas aller chercher la médaille d'or. Là.
Ben écoute, le problème des nations comme la France, parce qu'il y a moins de profondeur, moins de joueurs établis, tu sais, on est 13e au monde, on se bat entre la 12e et 14e. Là. Okay. Donc, nous, ce qui est important, c'est qu'on soit quand même capable de gagner quelques matchs, d'éviter la relégation et puis de chercher des points parce que ça compte pour la qualification olympique qu'il va y avoir pour au mois d'août 2019 ou au mois d'août 2020. Donc, c'est d'essayer de se maintenir. Le premier mandat, c'est de se maintenir. Et puis, après, il faut regarder versus les joueurs qu'on a sous la main. Là. Nous autres, présentement, on a un problème, c'est que nos quatre meilleurs joueurs ne se sont pas présentés à l'équipe nationale. Donc, on a trois joueurs qui sont blessés. Et puis, un autre joueur qui voulait avoir une pause, on va prendre un break. Donc, nos quatre meilleurs, c'est deux joueurs de la NHL, c'est deux joueurs de la KHL en Russie. Donc, ça fait un gros trou dans notre alignement. Ça fait... ça paraît. Donc, les résultats sont peut-être... les demandes sont peut-être moins élevées cette année. Sauf okay. qu'on se doit quand même d'essayer de garder le maintien dans la grosse division mondiale. Là.
OK. C'est Alexandre Texier qui est le joueur des Blue Jackets. Ça se trouve à être votre meilleur joueur. Est-ce que je t'ai dit que c'est votre meilleur joueur parce qu'il joue en LNH ou il y a d'autres très bons joueurs dans votre équipe qu'on connaît moins?
Bon, écoute, on a quand même d'autres bons joueurs aussi. Là. Bon, c'est sûr que Tessie, bon, il va attirer un petit peu plus parce que bon, c'était un choix de Columbus. Il a fait sa saison en Finlande. Il a joué toute la saison en Finlande. Puis après, bon, il s'est rapporté au club de la Ligue américaine. Il était gradué en Ligue nationale. Donc, c'est sûr qu'il attire beaucoup les regards, sauf qu'il est quand même seulement 18-19 ans. Donc, il y a encore un gros cheminement à faire de sa part. On a quand même des joueurs qui sont établis. On a des joueurs qui sont dans l'équipe nationale depuis 8-10 ans. Donc, c'est des joueurs qui sont beaucoup moins connus du côté nord-américain, sauf que c'est des joueurs qui ont joué à l'étranger, dans des championnats étrangers, qui ont performé et qui sont un peu les cadres de notre équipe. Là.
OK. Est-ce que je comprends? Tantôt, tu as parlé de qualification olympique. Est-ce que je comprends que oui. Si vous faites bien à ce tournoi-ci, tu pourrais peut-être te retrouver aux Jeux olympiques derrière le banc de la France?
Écoute, c'est du long terme, là. Ce qui est important pour nous, là, c'est un, cette année, d'avoir le maintien. On a un début de tournoi qui est quand même assez difficile. Et puis, comme je te dis, c'est qu'au mois d'août, l'année prochaine, ben, il va y avoir les qualifications olympiques. C'est-à-dire qu'il y a déjà 8 clubs. Les 8 premiers au classement mondial vont s'assurer de participer aux Olympiques. Et les 4 autres, c'est des tournois à l'interne. C'est-à-dire que c'est des tournois contre d'autres nations qui sont positionnés entre 13 et 18, je me trompe pas. Donc, les 4 meilleurs de ces tournois-là, vont avoir accès aux Olympiques. Donc oui, il y aurait une possibilité. J'avais un contrat quand même de cette année, l'année prochaine, et puis après ça, bon, ça va avec le mandat que Philippe va avoir aussi. Okay. Sauf que lui, ben, son mandat aussi, ce serait d'essayer de qualifier cette équipe-là pour les de faire le tournoi olympique.
Ah oui. René, je suis convaincu que quand tu as coaché ton premier match avec les Saguenay de Chicoutimi, il y a plusieurs années, je suis convaincu que tu étais nerveux. Mais je suis convaincu qu'il y a un autre genre de nervosité. Mais jeudi, tu vas quand même affronter le Canada. C'est ton pays parce que tu es un gars de Québec. Tu vas affronter Alain Vigneault puis les meilleurs joueurs du Canada. Il doit avoir un petit stress, le fun.
Ben écoute, un petit stress, le fun, il va sûrement en avoir un. Il va sûrement en avoir un parce que c'est contre mon pays. Il y a quand même beaucoup de Québécois dans cette équipe cette année. Sauf que, écoute, je l'ai vécu un peu il y a 2-3 semaines quand on a affronté les Suisses en match d'exhibition. Bon, j'ai eu la nationalité aux Suisses aussi après 13 ans, là, durant mon mariage aussi avec ma femme. Donc C'était drôle de me retrouver en arrière du banc de la France, jouer contre ton pays adoptif, ton pays où ça fait 13 ans que tu joues. Et puis, bon, on a perdu le premier match, mais on a eu le malheur des dates lors du deuxième. Donc, pour certains copains, ils sont des amis en Suisse, ils ont fait plaisir à me traiter un peu de traître ou de vouloir abaisser le pays, sauf que, bon, c'est nickel que d'autres choses. Mais c'était quand même spécial aussi de te retrouver en arrière du banc contre les Suisses, les joueurs que tu coaches contre ou les joueurs que j'avais dans mon équipe.
Il y avait
quand même deux à trois joueurs qui faisaient partie de l'équipe.
Est-ce que le déroulement d'un match au niveau international versus ce que toi tu vis dans ta ligue ou versus ce qu'un entraîneur chef peut vivre dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine, est-ce qu'en cours de match, les adjoints et les entraîneurs chefs agissent à peu près de la même façon?
Mais moi, je te dirais que oui. Puis en plus, bon, si je compare avec l'Europe, comme nous en Suisse, on a encore plus d'impact dans le match, c'est qu'il y a les power breaks. Là, il y a toujours deux pauses. Il y a trois pauses dans le match entre après les quatre premières minutes de jeu pour les commerciaux, les tout ce qui est sponsoring. Donc, on a quand même trois pauses qui dans chaque période, où on a 60 à 70 secondes de jeu. Donc, on revenait avec les mêmes trios, les ajustements au niveau des face-offs, du collectif, des tactiques. Donc, je pense que si je compare avec la Suisse, on a une incidence un peu plus dans le match qu'en Suisse, parce qu'en Suisse, ben, il n'y a pas ces breaks-là. Donc, la game est quand même non-stop qui joue, à part les mises en jeu ou les arrêts de jeu qui sont peut-être un peu plus longs. On a moins d'incidence dans le match. Les ajustements vont se faire beaucoup plus entre les périodes, tandis que là, ben, on peut faire quand même des ajustements trois fois dans la période.
OK. Est-ce que la meilleure équipe, c'est la Russie?
Ben, écoute, sur papier, je suis obligé de te dire oui, sauf qu'ils sont pas dans notre pool. Là. Eux sont à Bratislava. Donc, je les ai vu jouer à télé hier contre la Tchéquie. C'est sûr que quand on parle de talent, on parle d'Ovechkin, on parle de Malgin, Kovalchuk, nomme-les, là, sont tous là.
Ouais.
Donc, en termes de talent, c'est sûr et certain que c'est l'équipe du côté de Bratislava qui a beaucoup plus de talent. Ici, ben, du côté de Kozice, je te dirais que l'équipe qui a quand même le plus de talent, c'est quand même les États-Unis. Là. Ils ont des joueurs, c'est incroyable.
Ouais.
Avec Kane, avec Debrinka, avec Hughes, le premier qui devrait être le premier choix. Je te dirais que de notre côté ici, il y a la Finlande et puis les États-Unis. Le Canada est peut-être moins nanti en termes de talent, sauf que le Canada, ben, sont très, très durs à jouer. Il y a énormément de talent aussi, sauf que peut-être moins de gros noms.
Excuse-moi, René, t'es là?
Oui.
OK, excuse-moi, ça a coupé. Tu disais qu'ils sont durs à jouer. Pourquoi ils sont durs à jouer, le Canada, particulièrement?
Bon, écoute, même s'il y a moins des gros noms que certains pays, c'est quand même des joueurs qui ont des expériences internationales. Donc, c'est des joueurs qui font pas beaucoup d'erreurs dans le match. Tu sais, je regarde le match hier, j'assistais au match contre la Slovaquie. La Slovaquie a un énorme début de match, met beaucoup de pression sur le Canada, prend les devants 2-0, la patinoire est en feu, tout le monde crie.
Ouais.
C'est la fête, tout le monde pense que la Slovaquie va s'en tirer en l'espace de 3 minutes. Ben, le Canada aura un power play, mettre
ouais,
2-1.
C'est ça.
Fin de période 2-2. Donc, la Slovaquie joue probablement la période de sa vie.
Ouais.
Et puis, fini la période, ben, c'est quand même 2-2, puis le Canada est revenu dans le match. Donc, c'est des clubs qui ont énormément de talent. La moindre erreur que tu fais, ben, tu vas payer cash. Donc, faut toujours t'essayer de prendre le moins de risques possible pour vraiment les garder à l'extérieur. Et puis, sinon, ben, comme je te dis, tu payes cash aussitôt que tu fais une erreur.
Parfait. Ah, OK, là, je te laisse aller te coucher. Un gros merci de nous avoir parlé en direct. C'est très apprécié. Puis, bonne fin d'expérience. Savoure ça.
Merci, Dan. C'est gentil.
Salut, René. À bientôt. René Matt, un gars de Québec qui est entraîneur adjoint avec l'équipe nationale de la France en Slovaquie pour le championnat mondial de hockey.